Dès mardi, découvrez L'Appel des Abysses, troisième podcast natif de fiction de France Culture.
La tempête a fait des ravages sur le territoire.
L'océan a recouvert les continents, l'air est devenu irrespirable. L'élite financière s'est réfugiée dans une cité immergée. À la surface, les plus pauvres étouffent dans un immense bidonville flottant où gronde la révolte.
Nous vivons tous accrochés les uns aux autres comme des naufragés à leur radeau.
Élevé à l'air libre, Marin découvre qu'il aurait dû grandir dans les profondeurs.
Il a été adopté.
L'Appel des Abysses, fiction en 10 épisodes, en son immersif, sur franceculture.fr et les plateformes dédiées.
Pendant 3 ans, une fois par mois, je me suis levée au milieu de la nuit, traversant Quito dans les brumes, pour prendre le premier bus qui descendait vers les forêts d'Amazonie équatorienne. À l'époque, j'ignorais que j'avais rendez-vous avec un peuple nomade. Des chasseurs-cueilleurs évoluant entre deux fleuves et refusant tout contact avec notre civilisation. Parfois, le voyage en sait plus que nous, qui nous pousse, nous exhorte, et l'on comprend après. Posé près de l'entrée, un sac à dos, où j'avais glissé le hamac parmi quelques habits. Éteignant la lumière et refermant doucement la porte, je vivais chaque départ comme un rituel aussi sacré que ces jeux d'enfants où l'on se jette sans trop savoir, le cœur battant.
Anne Cibran, Le Cercle Sauvage. Voyage en Amazonie équatorienne. Troisième épisode. Kidnappé par les sauvages.
Trois bicoques, une vieille pompe à essence, un café épicerie, quelques bancs claudiquant sous une bâche de plastique. Je n'aurais jamais cru que Puerto Canelos, l'embarcadère du pays de la cannelle, d'où sont parties tant d'expéditions en pays Jivaro, eût été si insignifiant. Ici, dans la jungle, la porte de l'aventure est modeste. Une barrière de jardin.
Caipi, caipi.
Oui, 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 attention de ne pas tomber, madame.
Le piroguier veille sur chacun. L'embarcation ressemble à une gousse brune creusée dans un arbre géant. Tout s'y entasse sans restriction. Poules, chiots, régime de bananes, électroménager, sacs de riz, de ciment. Avec les hommes, les femmes et les enfants, assis sur les caisses à l'arrière.
Tu vois, les choses, les valeurs, on les enferme là dans les sacs en plastique, au cas où l'on chavire.
L'Amazonie n'a pas de route, que le mouvement des fleuves. L'homme ne peut que s'y laisser emporter. Avant de partir, chacun s'enquiert du niveau des eaux, comme de l'humeur d'une personne. Ma voisine immédiate est une grand-mère. Sissa.
Je m'appelle Sissa.
Fleur en quichua.
Moi, c'est Anita.
Elle porte des bracelets de perles rouges, une paire de boucles d'oreilles en plume d'ara. Avec les voltes d'une dentelle brune dessinée entre les yeux et sur les joues, avec la sève des fruits du widouk. De cette féminité portée intacte au fil des ans, se dégage une lumière douce. Nous partageons nos cacahuètes et nos morceaux de pain.
Imata ?
Avec la vigie à l'avant de la pirogue et celui qui tient le gouvernail, nous sommes environ une quinzaine dans cette embarcation. Tous sont des Satcharuna de la région de Canelos. Évangélisés depuis des siècles, les Runas sont habillés à l'occidentale, mais la différence est très marquée entre les sexes. La coquetterie et la beauté des femmes est proverbiale dans la région.
Nous, on appelle la rivière Pushkuyaku, le fleuve d'écume. Elle naît au pied d'une cascade qui lui donne cette mousse jaune.
Pushkuyaku descend du plateau de Puyo aux plaines du Pastassa. Cachée sous une eau brune avec ses broderies de bulles où les graines s'agglutinent, les marches de pierre ne se voient pas, ce qui les rend si dangereuses. On redoute les passages, ces dévallées abruptes où le courant retourne l'embarcation ou la coince entre deux rochers. Mais aujourd'hui, la rivière est grosse. Les marches sont douces. Le long des berges, de petits affluents apportent chacun une couleur, une indolence couverte de feuilles, de graines crépues, de plumes d'oiseaux, tandis que les arbres nous saluent un moment et s'éclipsent. L'impression de percer un décor, glisser sous les tentures, les draperies, les rideaux. Le tracé vaporeux de la cascade, le front blanc de l'arbre fleuri, à chaque méandre, ce que je viens d'apercevoir disparaît. Et l'on dirait qu'une grande porte se referme derrière moi. Chaque fois, je me sens un peu plus loin des hommes, mais un peu plus vivante aussi. Assise dans le courant, je me penche irrésistiblement vers le prochain méandre, impatiente de découvrir, comme une page neuve, les femmes à la lessive, la peau luisante des enfants bondissant dans l'eau éclaboussée, tandis qu'une autre porte encore se referme dans mon dos. Après combien de portes, à quel moment ai-je senti l'irrévocable ? Parce que le loin existe dans notre géographie intime, comme une borne que je crois bien être en train de passer. Je me souviens que je me suis dit alors, il m'est impossible de ressortir d'ici toute seule. Je me sentais engloutie, avec autant de forêts dehors que de forêts dedans. Assise à mes côtés, Sissa m'observait depuis un moment. Quand elle a vu que je commençais à m'assoupir, elle m'a donné un coup de coude.
Attention, ma fille, la forêt est en train de t'attraper.
Et elle avait raison. Nous nous sommes arrêtés pour pique-niquer sur un îlot de sable, avons partagé un poulet et du riz, mangé au creux de la paume. Puis les hommes se sont amusés à suivre des traces d'animaux, tandis que les femmes retournaient les cailloux sur la rive, cherchant la forme d'une bête, la trace d'un esprit, dans les pierres rencontrées. Et nous sommes repartis. Depuis combien de jours ai-je quitté la terre ferme ? L'impression d'habiter sur cette embarcation, où j'ai mon coin de banc, et l'espace entre deux ballots pour étendre mes pieds.
Tu vois ce rocher, Anita ? C'est là que s'asseyaient nos ancêtres pour boire l'ayahuasca et voir les lieux fleurir dans l'avenir pour leur donner leur nom. Ce n'étaient pas des hommes comme nous. Ils étaient bien plus grands, plus de 2 mètres de haut, avec la peau claire.
Les amis de Sissa habillent les collines, les cascades, d'histoires et de légendes. Ainsi, cette montagne qui s'est laissée tomber a roulé jusqu'au fleuve le jour où un homme a voulu la domestiquer, en y ouvrant un champ.
Elle s'appelle Cachiurcu.
L'après-midi touche à sa fin. Les enfants sont endormis. Pour s'amuser de mon accent, on me demande de nommer en quichua ce que je vois autour de moi. Après les arbres, les bêtes, le fleuve, j'en arrive aux couleurs. Pour le vert, je cherche les nuances, mais je découvre qu'il n'y a qu'un même mot pour les feuillages et pour le fleuve, que j'aurais plutôt vu brun roux. On dit ici « vert fleuve ». À ma grande surprise, j'apprends que le ciel est vert. Vert ciel.
Mais le ciel est bleu.
Bleu pour vous autres. Il n'y a pas de bleu dans notre langue. Il n'y a que le mot azul que nous ont donné les Espagnols, mais que nous, les anciens, on ne voit toujours pas.
La tête renversée, je contemple l'azur au-dessus du fleuve. Première étape dans l'impalpable, entrer dans cette relativité des sens. Est-ce la langue qui influence le regard, ou vient-elle s'ajuster à ce que l'on ressent ? Les jeunes voient le bleu, pas les grands-mères. Il a suffi d'un mot appris à l'école pour changer la couleur du ciel. Je voudrais m'enfouir au tréfonds de ce ciel vert. À tant tremper dans cette macération de sève, imbiber mon regard d'une lumière inconnue. Si ça ne parle plus, les mains nouées sur ses cuisses, elle regarde quelque chose devant ses pieds, comme pour s'occuper l'esprit. Ici, le jour meurt dans la joie. Au paroxysme de sa beauté, il bascule d'un seul coup du rire plein au cadavre, avec ce silence, comme un hoquet de surprise qui éteint les cris, retient les chants dans les gorges. Même les grenouilles et les cigales respectent ce passage. Puis c'est la pleine obscurité.
Je n'aime pas cette heure.
Sissa se serre contre moi. Je mets mon gilet sur ses épaules. Elle hoche la tête, les yeux braqués vers l'ombre mauve où les berges sont à tremper déjà.
La forêt n'a pas toujours été si tranquille. Avant, à cette heure, on s'éterrait dans l'épilogue. On retenait la voix. On avait peur d'être vu.
Vu par qui?
Les aucuns, les sauvages.
La forêt disparaît, aspirée par bosquets dans une obscurité de gouffre. Ne reste que le ruban du fleuve pour retenir le ciel ou appeler la lune.
Un soir comme celui-là, je n'étais pas encore une jeune fille. Je descendais le fleuve avec mon père. Soudain, le ciel s'est obscurci avec des éclairs. Ça faisait autour de nous. On aurait dit des anges. Mon père a crié. Aucun, aucun. Alors, je les ai vus, nus, des taches peintes sous les corps, perchés sous les branches, courant sous la rive, jetant leurs lances. Aïe, mon pauvre père, il est tombé dans l'eau, traversé de partout. Moi, j'ai resté figée à l'avant. La peur m'avait volé mes forces. La pirogue descendait toute seule. Des lances sifflaient autour de moi. Puis, je crois qu'ils m'ont lancé des pierres, car quelque chose a cogné ma tête. Je suis tombée dans l'eau.
L'obscurité est moins épaisse. C'est l'heure des crapauds. Par buisson, ils s'appellent puis se taisent en même temps.
Un homme m'a porté. C'est comme ça que je suis arrivée dans cette grande maison où les sauvages vivent tous entre eux. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais allongée par terre. Des femmes et des enfants penchés sur moi. Tout était sombre, à part un feu. Les temps que je me redresse, des bras ont voulu m'enlever mes habits. J'ai griffé, j'ai mordé. Ces jours-là, ils n'ont pas insisté. Un homme s'est avancé pour m'offrir un hamac. Je l'ai jeté au feu.
Pourquoi es-tu venu chez nous? M'a dit une vieille qui connaissait ma langue.
Par ta faute, les étrangers vont nous chercher pour se venger. Et beaucoup des nôtres vont mourir, comme à chaque fois. J'ai répondu. Les hommes de ta famille ont tué mon père. Et moi, c'est comme si j'étais morte aussi. La vieille a posé sa main sur ma tête. Puis m'a donné un hamac. C'était le sien, je crois. Je l'ai gardé.
Coincée par un rocher, la pirogue dérive en travers du courant. Tout le monde se crispe. Deux hommes sautent à l'eau pour retenir l'embarcation. Un autre part chercher une branche en nageant. Le courant a réveillé la férocité des pierres. On dirait qu'elles essaient de percer la coque. La pirogue plonge vers l'avant, nous entraînant dans une glissade vertigineuse. Cette fois encore, la marche est franchie.
Au début, j'avais honte. Honte de vivre sans habits. De m'accroupir pour manger ces singes fades, ces vers crus, cette viande morte. Honte de déféquer avec les femmes au pied des arbres. J'avais peur de devenir une bête, qu'une queue me pousse au bas des reins, que mes pieds s'élargissent, que je finisse par marcher debout sous les branches. J'avais peur, Anita, de devenir comme eux. Les nuits pluvieuses, les froids me rentraient dans les os. J'allais m'arrondir dans les cendres, comme au fond nos chiens. Mais dans leur maison, il n'y avait pas de chiens, que des singes et des perroquets. pour ajouter aux oreilles des hommes des oreilles des bêtes encore plus fines qui sauraient prévenir à temps si quelqu'un approchait. De l'aube au crépuscule, les enfants me suivaient. Ils s'échangeaient des regards en parlant à voix basse. Parfois, l'un d'eux se mettait à courir pour me frôler très vite, poussant des cris d'oiseaux. L'envie de courir grandissait. Je sentais mes orteils se planter dans la terre. Un matin, je suis partie derrière mes jambes. Malgré moi, je suivis l'enfant qui courait. Était-ce de ne plus manger le sel? J'ai galopé pendant des heures, grimpant les collines, dévalant les combes. À chaque pas, j'oubliais ma vie d'avant. Si bien qu'à la fin de la course, pur sauvage, j'étais devenue. J'avais perdu la honte. Je ne pensais plus qu'à jouer.
Comment êtes-vous revenue ici?
Un jour, la vieille qui m'avait donné son hamac m'a demandé de l'appeler Bara. Dans leur langue, Bara veut dire « mère ». En entendant ces mots, j'ai retrouvé ma honte. Comment peux-tu partager la viande et les maniocs avec ceux qui ont tué ton père? Me suis-je dit. Désormais, au lieu d'aller jouer, j'ai parti à la cueillette avec les femmes dans l'espoir de découvrir un sentier, des repères pour m'échapper. Je n'ai rien trouvé, mais je me suis enfuie quand même. J'avais peur de finir par oublier les miens. 2 jours entiers, je courais. La nuit, je m'enduisais debout et cachais mon odeur sous les feuilles pour que les fauves ne me trouvent pas. Le matin du 3e jour, un chasseur de Kuniyaku a commencé à me tirer dessus. Il me prenait pour le Nauka. Comme je criais en quichua, il s'est approché, m'a donné sa chemise pour que je m'habille, puis il m'a amené voir les curés.
Nous arrivons en pleine nuit, accueillis du haut de la berge par des cris, des sifflements. Des hommes viennent nous aider à descendre, à décharger. Rares sont les lampes torches. Tout se fait sous une lune capricieuse, à tâtons. Par intermittence, entre 2 nuages, j'aperçois des enfants ensommeillés. Sortis du lit, ils s'accrochent l'un à l'autre, le visage impassible, encore à rêver. Sissa a disparu sans que j'aie eu le temps de la saluer. Je la cherche un moment, étonnée qu'après tout ce temps passé ensemble, elle n'ait pas laissé derrière elle un nom, une adresse, le moindre petit pont. Je dérape dans la pente, mais rafle la joue à une branche. Arrivée à la maison de mes hôtes, je trouve mon sac à dos posé près des jarachicha. Comme ils sont à parler avec animation, raconter les événements du voyage, des potins et des anecdotes glanées à la ville, j'installe mon hamac dans un coin, descends me laver au fleuve et vais me coucher aussitôt. Est-ce la fatigue? La forêt me jette parfois dans le méandre sablonneux d'une question qui n'espère même pas de réponse. Que suis-je venu faire là? Je pense aux miens qui dorment ailleurs. Comme elle me semble dérisoire parfois cette déambulation. Plus tard dans la nuit, j'ai la sensation que quelqu'un se tient là, près de moi, qui m'observe. Tendu entre 2 piliers, mon hamac donne sur la forêt. Pas la moindre cloison. Je lève la tête jusqu'au ras de la moustiquaire. Au même instant, la lune perce les feuillages. Je distingue une femme nue avec un long bâton où est perché un aigle blanc. Elle me regarde avec bienveillance. Il me semble voir ses yeux briller. Tu rêves? Tu rêves, me dit une voix. Je m'éveille, mais pour voir cette femme encore plus près. Elle tend sa main. Mon cœur bat à toute allure. Au moment où elle me touche, je me réveille pour de bon. Il n'y a personne. Qu'un chien roulé près du foyer, la litanie des crapauds et des oiseaux de nuit. Heureusement, il y a Doña Paola. Elle est devenue cette grand-mère d'adoption qui m'apprend à ouvrir un chemin à la machette, allumer le feu avec du bois mouillé. Sous son toit de palmes tressées, sa maison n'a pas de porte. De vieilles pirogues retournées en guise de banc, quelques hamacs autour, un feu, et ce sol de terre battue que la vieille femme balaie soigneusement chaque matin. Une cloison de bambou sert à l'accrochage d'ustensiles, de bouts de ficelle, de vieilles brosses à dents. Ce sont des maisons qui respirent avec les hommes et semblent perdre le souffle quand ils s'en vont. Derrière les pas de Doña Paola, dans cette jungle exubérante, j'ai appris à percer les feuillages, les passer comme des rideaux pour discerner les perspectives et les buissons. Parce qu'au début, on ne voit que du vert, ce foisonnement de sève qui couvre le regard comme une paupière. On ne voit rien du tout. Et pour marcher aussi, apprendre à ne pas trébucher sur les racines cachées sous les feuilles, passer sans déraper le tronc jeté sur le ruisseau. Partout, derrière le moindre geste, déployer cette attention. Ici, on ne s'assoit jamais sans vérifier s'il n'y a pas un insecte, une épine, un serpent. Et tout cela sous la surveillance des enfants, stupéfaits de rencontrer tant de maladresse chez un adulte pas encore vieux. Elle chante pour chaque chose, Doña Paola. Les boutures de manioc qu'elle va planter bientôt, le parfum des orchidées, la saison des poissons. Parfois, je la vois s'accroupir ou s'arrêter tout à coup en chemin. C'est quand elle parle à la forêt.
Je ne vais jamais travailler au jardin, cueillir les plantes médicinales ou faire une marche, sans avoir d'abord reçu l'autorisation.
Et comment savez-vous que la forêt est d'accord ?
Parce qu'elle vient me parler en rêve. Ou quelquefois, elle m'envoie un animal pour m'avertir. Pour celui qui sait écouter, la forêt parle à chaque instant. Quand la forêt m'attend, ça m'échauffe la poitrine. Là, tu vois, et ça fait naître un chant.
En vivant chez les Sacharuna pendant des mois, j'habitais au bord de la faille, à l'extrême limite de ce qu'une vie de sédentaire contiguë au territoire des nomades peut avoir de commun avec eux. Deux cultures baignant dans la même forêt développent les mêmes goûts, les mêmes gestes. Comme la soie, cette bière de manioc, le tissage des hamacs et les paniers. Et sans doute que leurs légendes se ressemblent, que leurs chamans s'essayent aux mêmes métamorphoses parfois. Mais pas de pont. Au-delà, il y a ce gouffre que Sacharuna et nomades remplissent de croyances. Nous les hommes, eux les bêtes, me disent les Sacharuna. Nous les hommes, vous les cannibales, pensent sûrement les invisibles, accroupis de l'autre côté du fleuve quand ils nous voient passer.
Sachamandami urmamungami rorauni nyuka gayari manaruna varmi chanilya indisi kwangi juwarmi mi silo rondo mayo pakchavi parararara parara Armashamari Moyuri Muni Silo Borbur Sisata Paiva Shundu Shinaki Ruang Tas 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 Mokosha.
Le cercle sauvage de Anne Cibran. Troisième épisode. Avec
Chloé Réjon,
Rebeca Campos,
María Villasís,
María Angélica Crespo,
María Ángeles Marcos,
Alfredo Burbano,
Bianca González,
Alexandra Tacoamán del Ermite,
Denzel Calle González.
Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chuvrière. Prise de son, montage, mixage, Claude Nior, Nicolas Depagraf. Assistant à la réalisation, Julie Briand, Vivien Demeyer. Réalisation, Laure Egorov.